On remercie Dieu pour cette église, cette mission. J'ai rencontré cette mission, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais je vais le dire encore, à travers l'émission Telephone Time dans les années 70, quand j'ai entendu Pasteur Stevens, cette voix que vous avez entendue. J'ai entendu la voix de Pasteur Stevens à la radio sur WACA à Springfield dans le Massachusetts. C'est quand j'ai entendu la voix. Le mot « voix » en fait signifie une lumière. Le mot « voix » vient du mot « lumière », une lumière à briller. Et je suis vraiment reconnaissant que Dieu m'ait amené dans ce ministère, parce que j'aurais jamais réussi à m'en sortir sans ça. Jean chapitre 4, je vais lire un verset là, qui m'a frappé. Il est dit, la femme laissa sa cruche et entra dans la ville et a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? Père, je te remercie ce soir. Venez voir un homme, venez voir l'homme Dieu. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions que tu nous parles par ta parole, par l'Esprit, dans l'Église. Bénis notre soirée, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Premièrement, je remercie Dieu pour le ministère. Beaucoup de grands ministères dans le monde, mais en particulier, c'est mon Église ici. C'est mon Église. Et je suis très reconnaissant pour ça. Parce que de toutes les églises, Dieu m'a amené dans celle-ci. Et je me rappelle comment j'étais sans église avant, pendant un temps, peut-être pendant un an. J'étais née de nouveau. Je me suis convertie le jour où ma fille Lisa est née. Ça s'est passé dans ma maison. J'étais très nerveux, très anxieux. J'avais peur de la naissance de cet enfant. Et j'ai ouvert ma Bible. Et j'ai lu Actes chapitre 9 et Dieu m'a vraiment parlé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi? Et c'était vraiment incroyable. Juste cette impression du Saint-Esprit qui entrait. J'avais jamais vraiment entendu parler ce que c'était qu'être né de nouveau, peut-être juste une fois en 1972. Et ça a été vraiment une réponse aux prières. Je me rappelle, mon arrière-grand-mère me disait souvent, « Toi en particulier, je prie pour toi. » Parce que toi, c'est n'importe quoi. Et elle me disait, je prie que Dieu change ta vie. Et je me disais, hey, c'est une vieille dame folle, mon arrière-grand-mère. Et je l'écoutais pas, je faisais pas attention. Mais je crois que Dieu entend les prières. Et une des raisons pour lesquelles on est ici, je crois qu'on l'a dit le premier soir, c'est un des premiers endroits où les frères Moraves sont venus. C'était un mouvement missionnaire qui a duré 150 ans. La plupart des églises protestantes de l'époque envoyaient un missionnaire pour 5000 croyants nés de nouveau. Chez les Moraves, c'était 1 pour 60. 1 pour 60. En 20 ans, ils ont envoyé plus de missionnaires que ce qu'ont envoyé les églises protestantes en 200 ans. Et ils étaient juste ici. Comment s'appelle le nom de la rue sur laquelle on se trouve? Rue Morave, rue des Frères Moraves. C'est extraordinaire de réaliser qu'ils ont probablement prié beaucoup à cet endroit, comme à beaucoup d'endroits. Et peut-être qu'on est une réponse à beaucoup de prières et à leurs prières en particulier. On est ici avec une vision pour la mission qui continue depuis 50 ans et qui a atteint beaucoup de pays. 76 pays, ça change toutes les semaines. Le nombre des églises est juste, mais c'est dans 76 pays. C'est vraiment extraordinaire qu'on puisse faire partie d'un ministère qui est capable d'atteindre les gens. Et cette femme est venue au puits, et c'est vraiment intéressant pour moi que cette femme avait un besoin, c'était juste de remplir sa cruche d'eau, elle avait besoin d'eau. On peut se passer de nourriture pendant un moment, mais essayez de vous passer d'eau, en particulier dans un désert. Ça m'est arrivé et j'ai fait un AVC. J'ai décidé que j'étais monsieur intelligent, que j'avais pas besoin de boire autant qu'on me disait, et je me suis retrouvée à l'hôpital. sans savoir comment je m'appelais. Donc elle est venue chercher de l'eau. Et les disciples, à ce moment-là, sont allés à la ville chercher quelque chose à manger. Donc une venait chercher de l'eau et les autres étaient allés chercher à manger. Ils allaient chercher des provisions dans la vie. Et je crois que ça peut arriver. Il n'y a rien de mal à chercher des provisions. Mais je crois que je préfère suivre Dieu, comme on a entendu aujourd'hui, et laisser Dieu pourvoir. On suit Dieu et Dieu pourvoit. Et elle a laissé ce qu'elle était venue faire. Elle a laissé sa cruche. Ça importait plus. Elle s'en rappelait même plus. J'ai rencontré un homme qui m'a dit « Tout ce que j'avais fait, celui-ci n'est-il point le Christ ?» Elle a vraiment compris la miséricorde parce qu'elle savait que Jésus savait qu'elle vivait avec son cinquième mari. Et personne de religieux ne parlerait à quelqu'un comme ça. Elle était à Sichar. C'est une ville qui est la ville des buveurs. C'était en Samarie. Les Samaritains étaient appelés des demi-diables. C'était des demi-juifs et des demi-syriens. Et les juifs les appelaient des demi-diables. Il rencontre cette femme et elle devient la personne. Il est dit un peu plus loin dans le verset, je crois au verset 36. Celui qui moissonne et celui qui sème se réjouissent ensemble. C'est bon, hein? Celui qui moissonne et celui qui sème se réjouissent ensemble. Elle est entrée dans la ville, cette femme extraordinaire, et elle a commencé à parler à tout le monde de cette personne, l'homme-Dieu Jésus-Christ. Et toute la ville est venue pour parler avec lui. Et puis ensuite, ils ont dit, maintenant, on ne croit plus à cause de ce que la femme a dit, mais à cause de ce qu'on a entendu. Et des années plus tard, en Actes chapitre 8, j'aime l'aspect de joie de celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il est dit en Actes 8, 8, quand Jésus est allé en Samarie. Il est allé où? En Samarie. Il y a une grande joie dans la ville. Une grande joie dans la ville. Et ça, c'est un résultat direct du fait que cette femme avait semé et eux, plus tard, ils ont moissonné. Et souvent, il y a une question de temps là-dedans. Les gens sèment, ils donnent des tracts, ils prient, ils donnent. Il y en a qui sèment et on se réjouit ensemble. C'est extraordinaire que nous, en tant que ministère ici, on prie, on va à l'église, on croit Dieu, on fait partie de notre assemblée locale, on est des membres en particulier. Et il y a des gens partout dans le champ missionnaire et on fait ça ensemble. On est ensemble là-dedans. On remercie Dieu pour les gens qui y vont, bien sûr. Mais s'il n'y a pas d'endroit pour envoyer, il y a un problème. Donc on se réjouit ensemble. Et c'est extraordinaire, cette joie qu'on peut avoir. Juste quand on voit quelqu'un qui dit oui à Dieu. Je pensais aujourd'hui, les anges se réjouissent au ciel. Pas à propos de qui est le premier ministre ou le président du pays. Les anges ne se réjouissent pas parce que tout va bien financièrement. Les anges ne se réjouissent pas à cause d'une nouveauté ou d'une découverte. Ils se réjouissent dans le ciel pour un pécheur qui dit oui à Dieu. Vous imaginez ça? Je peux provoquer de l'activité au ciel et vous pouvez provoquer de l'activité au ciel. Vous pouvez faire quelque chose ici qui va provoquer quelque chose au ciel. Vous pouvez faire quelque chose ici qui va provoquer quelque chose au ciel. Je ne sais pas s'ils battent des ailes, mais il y a une joie au ciel. C'est pas juste la joie des anges. Je crois que le ciel entier se réjouit quand une personne dit oui à Dieu. Et qu'est-ce qui peut avoir plus de valeur que ça? Qu'est-ce qui peut profiter à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme? Qu'il perde son âme. C'est incroyable, la joie. Paul a écrit aux Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 18, 19 et 20. Il leur a dit, parce qu'il est allé dans cette ville, je me rappelle, je suis allée à Salonique avec pasteur Stuart. Et la police nous a arrêtés. C'était incroyable ce qui s'est passé à Thessalonique. Partout où on est allé. Un jour, l'un d'entre nous a plongé dans l'océan depuis la jetée parce que la police était après lui. Tu te rappelles de ça? Et à Thessalonique, c'est incroyable ce que Dieu faisait. Donc Paul va là-bas, il a un ministère là et il dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne et ma joie, vous êtes mon espoir et vous êtes ma gloire. Vous, il dit vous, l'Église. Mais il y a quelque chose qui est écrit juste avant et c'est important de le comprendre en ce qui concerne la mission. Je serais revenu vous voir, mais Satan m'en a empêché. Et je ne veux pas me concentrer sur cette partie-là ce soir, mais c'est une réalité. Il essaye d'empêcher nos progrès. C'est ce que le mot signifie. Il essaye d'empêcher nos progrès, d'arrêter le mouvement. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une église, et qui peuvent les empêcher d'avoir une vision pour les gens qui sont de l'autre côté de la rue et dans le monde entier. Ça peut être, oh, on n'a pas assez d'argent. Oui, mais Dieu a cet argent. Ou alors, on n'est pas qualifié. Vraiment? Le gars en Marc 5 qui avait 6000 démons, il s'est bien débrouillé pour évangéliser les villes autour de lui. Bien sûr, on croit dans l'éducation, dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver là-bas? Ça, c'est tous les empêchements de l'ennemi. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que l'ennemi existe. Ils disent, oui, je comprends théologiquement, mais ils ne comprennent pas de manière expérimentale. Est-ce que vous réalisez que l'ennemi essaye de nous utiliser, de nous empêcher, et il utilise la parole pour ça? De quoi Satan est-il le Dieu? En 2 Corinthiens 4, 4 et 3, 14, il est le Dieu de ce monde. Ce qui signifie, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde, on est d'un autre royaume. Et lui, il est le Dieu de ce monde et il utilise le monde et le système de ce monde. Et à propos, le mot cosmos, ça signifie tout ce qui est étranger à Dieu et en opposition à la vie de Dieu. C'est ça le monde. Jésus l'a utilisé 19 fois dans sa prière en Jean 17. Le mot monde. Attention au monde. Disciples, faites attention au monde. Donc l'ennemi veut nous empêcher, il veut nous couper dans nos progrès. Et les choses qu'il peut utiliser, oh, ils ont déjà assez de gens là-bas, il y a déjà des chrétiens là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir avec la question? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question? Dieu nous appelle en tant que ministère. Je ne sais pas combien de missionnaires on a, probablement un millier dans tous ces pays. Mais grâce à Dieu pour eux. Et l'ennemi veut empêcher ça. Et il utilise la chair, il utilise le système de ce monde. Parce que si on voyait l'ennemi face à face, on dirait, oh ok, maintenant je comprends. Mais à cause de notre vieille nature pécheresse, qu'il est capable de pénétrer, et du système de ce monde qu'il utilise, on peut se retrouver avec des pensées qui ne sont pas du tout organisées. Et c'est le cas de la plus grande partie du christianisme. Ils ne sont pas capables de prendre leurs décisions en ce qui concerne le fait d'atteindre un monde qui se perd et qui se meurt. Et c'est tellement triste pour moi. C'est tellement triste. J'ai lu une statistique que les USA, qu'il y a seulement un chrétien sur 110 qui évangélise. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont rien à voir avec la mission. Ça va vers le bas. Et vous savez quoi? On ne peut pas arrêter cette église. Il ne va pas arrêter ce ministère. Il ne va pas arrêter ce ministère. Vous me suivez? On a des hommes de Dieu. On a Pasteur Stevens, Pasteur Schaller, les anciens de l'église, des hommes et des femmes de Dieu, une école chrétienne, un institut biblique. Et tout ça, tous les gens qui sont des membres en particulier de ce corps, et on a une vision. Parce que sans ça, on périt. Mais quelle joie quand on voit la marche des missions ce soir. Quand on voit ces enfants ici, quelle joie c'est, la joie du Seigneur. Et à propos, est-ce que vous avez déjà lu ce verset? J'y ai pensé pour la première fois depuis longtemps aujourd'hui. Néhémie 12, 23. La joie de Jérusalem s'entendait de loin. C'est un beau verset. La joie de Jérusalem s'entendait de loin. Donc on est ici, on a une grande joie à propos de la personne de Christ, du corps de Christ, de l'évangile de Christ. Et cette joie s'entend de loin. Et on a des églises dans le monde entier qui pénètrent toutes sortes de régions. Il y a 6 milliards et demi de personnes qui sont perdues. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés de nouveau sur la planète. J'ai pas capté le chiffre. 90% de la population du monde n'est pas sauvée. Les chrétiens cherchent la joie à tellement d'endroits. Tellement d'endroits. Mais on a juste besoin de dire oui à Dieu. Je pensais à ça aujourd'hui. C.T. Studd était un grand missionnaire. Il était un peu bizarre. Il avait une serviette et dans la serviette, il avait un autocollant qui disait « T'en occupe pas ». Il a été touché par un message de Carl Kuhn. Il était un jeune homme. Il a entendu le message. Les cannibales ont besoin de Christ. Et à propos, si vous voulez travailler auprès des cannibales, restez mince. Parce que si vous êtes tout mince comme un fil de fer, ils vont vous laisser tranquille parce que ça ne vaut pas la peine pour eux. Prenez pas ça mal, je ne parle pas du poids. Les cannibales ont besoin de Christ. C.T. Studd est parti ce soir même et il était en colère. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens? Pourquoi ils n'y vont pas? Il avait déjà passé 10 ans en Inde et 12 ans en Chine. Il avait déjà fait ça. Il était vieux et malade. Il était très malade. Et vous savez ce qu'il a dit? Je veux y aller. Il allait voir le docteur et le docteur lui a dit, pas question. Juste le voyage va te tuer. Le voyage simplement va te tuer. Il allait voir sa femme. Elle lui a dit, mais tu plaisantes. Je te suivrai jamais là-bas en Afrique. Le bureau des missions a dit, il n'en est pas question. Il n'avait pas d'argent. Sa famille s'est réunie en disant, peut-être qu'il faut qu'on le fasse interner, il est fou. Tout le monde a dit non. Son docteur a dit non, sa famille a dit non, sa femme a dit non, l'église a dit non, les finances ont dit non. Mais Dieu a dit, vas-y. Dieu a dit, vas-y. Je t'ai appelé. C.T. Studd est allé en Afrique et y a passé 30 ans à marcher au milieu des cannibales. Il s'est jamais fait manger. Et il était un peu fou. Il y a certains aspects de sa théologie qui étaient un peu bizarres. Mais Dieu utilise parfois des gens un peu fous pour pénétrer certains endroits reculés. Si vous êtes stable, vous irez jamais. Il faut être un peu étrange pour aller à certains endroits. Ne me regardez pas. Je veux juste dire, parfois, il faut être un peu étrange. Et peu importe. S'en aller en disant, je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle joie. Les Philippiens, à propos, n'avaient pas la joie. Et vous savez quoi? Il y a des églises qui ont des problèmes. Je vous garantis, s'ils étaient occupés des perdus, leurs problèmes s'en iraient. Quand on y va, tous les problèmes s'en vont. Tenir ferme la parole de Christ pour qu'au jour de Christ, on ne soit pas trouvé ayant travaillé en vain. Je veux courir, je veux travailler et je ne veux pas que ma vie soit vide. Je veux me réjouir dans le jour de Christ. Et c'est ça la mission. Et je peux dire, oh, j'ai tout planifié dans ma vie. Je travaille avec les drogués, les alcooliques, j'ai des ministères dans plusieurs prisons. J'avais tout bien calculé dans ma vie. Je savais exactement ce que j'allais faire dans mon christianisme. J'allais le développer, j'allais continuer là-dedans. Et c'était à propos de moi, les gens qui avaient des problèmes et la drogue. Et Dieu a dit, vraiment? J'ai prêché un message en hébreu. Non, j'ai entendu le message pressé en hébreu 11 et je me suis cachée sur le balcon parce que je ne voulais pas entendre parler de la mission. Je trouvais que les missionnaires, c'était des gens un peu bizarres. Et il a prêché un message d'Hébreux 11 et le Saint-Esprit m'a littéralement cloué au mur et il a dit, toi. Et j'avais toujours tort parce que j'ai essayé d'aller en Italie. Pourquoi? Et pasteur Stevens m'a dit, tu as déjà prié à propos de l'Afrique? Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu veux pas prier pour ça? J'ai dit, non. Il m'a dit, je crois que tu devrais aller en Afrique. Et je lui ai dit, avant je te faisais confiance, mais je vais pas aller en Afrique. Je ne pense pas à l'Afrique, je ne prie pas pour l'Afrique et je ne veux même pas regarder l'Afrique sur une carte. Je ne veux même pas regarder l'Afrique sur une carte. Et savez ce qui s'est passé? 33 ans plus tard, c'est toujours l'Afrique. Et tellement d'entre vous, que ce soit en Chine, en Afrique centrale ou n'importe où. J'ai passé un super moment avec les pasteurs indiens aujourd'hui. Pensez à ça, en Inde, on a 160 églises. C'est pas quelque chose? 160 églises. De Bombay, il y a 115 personnes qui sont parties et le reste est parti de Bangalore. Et puis ensuite, 37 églises au Népal. Comment c'est arrivé? C'est une œuvre de Dieu. Comment c'est arrivé? Où est votre gros compte en banque? Où sont les riches? Je ne sais pas. Mais je sais que ça arrive. Et c'est Dieu. Qui peut être contre lui? Dieu est pour nous. Qui peut être contre nous? On peut être mis en prison en acte 5, on va sortir en se réjouissant. Si c'est une œuvre de Dieu, on ne pourra pas la faire tomber. Toi, diable idiot, tu pourras jamais rien faire contre une œuvre de Dieu. Et on a de la joie en le faisant. On a une grande... On met beaucoup d'importance sur la prière. Maintenant, on a 7 réunions de prière par semaine. Dimanche soir, après l'église... Mardi matin après la réunion de staff, mardi soir, mercredi soir après l'église, jeudi après le cours d'institut biblique, vendredi après l'institut biblique et samedi à midi. On a 7 réunions de prière par semaine. Et vous savez quoi? Ça peut devenir une joie de prier. Amen. Il y a une joie. Dieu répond aux prières. Est-ce que vous croyez ça? Dieu répond aux prières. Il va appeler des gens ce soir. Vous voyez ces enfants ici? C'est eux notre futur. Livingstone a été appelé quand il avait 12 ans. Laissez votre cruche. Il y a des gens qui rejettent tous leurs soucis, mais ils ne les jettent pas trop loin pour pouvoir aller les récupérer quand ils en ont besoin. Rejetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. Parfois je le jette, mais je le vois toujours. Oh, je vois toujours mes soucis. Oh, je sais où j'ai mis mes soucis. Je vais retourner les chercher. Jetez la cruche loin de vous. Elle a laissé sa cruche. Peut-être ma cruche, c'est mes finances, peut-être c'est mon identité, peut-être c'est ma nation. Qu'est-ce que c'est ma cruche? Peut-être ma santé. Oh, je suis trop malade, je suis trop vieux, il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. Je suis allée une fois à l'hôpital. J'avais une colique néphrétique. Ma santé, mes finances, mon futur. Vous savez quoi? Mon futur, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne sait si on a un futur de toute façon. On ne sait pas ce que demain nous apportera. On n'en a aucune idée. Quelqu'un m'a dit, tu deviens vieux. J'ai dit, alors tu veux que je prêche à ton enterrement? Parce que j'aime pas le mot vieux, vous me suivez? J'aime pas le mot vieux. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on ait un plan de 70 à 80 et de 80 à 90 et après on pensera à la suite. On a un plan. Le plan, c'est d'atteindre les gens, que ce soit ici dans cette ville ou dans un pays en Europe ou dans un endroit en Amérique du Sud ou où que ce soit. À propos, on va avoir une conférence de nouveau en Thaïlande aujourd'hui. Une conférence de toute l'Asie du Sud-Est. Si vous pouvez, venez. On a juste des occasions extraordinaires et une joie extraordinaire. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, se réjouissent ensemble. Il y a des milliards de gens en Chine qui ont besoin de Christ. Amen. En Inde, pensez à ça. En Afrique, en Amérique du Sud. Maintenant, en Afrique, il y a 1,2 milliard de gens. Au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Russie, en Amérique centrale, au Canada. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Et vous n'avez pas commencé le basketball. Je veux dire ça publiquement. Il y a des gens qui disent que le basketball a commencé au Canada. Je suis désolée. Il faut qu'on se parle vraiment sérieusement. C'est Nate Smith à Springfield au Massachusetts qui a commencé le basketball. La joie. La joie de voir quelqu'un dire oui à Christ. La joie de voir une réponse aux prières. La joie d'envoyer un missionnaire, la joie d'une nouvelle église implantée. C'est incroyable, quelle joie. Et je ne veux pas que ma joie soit juste à propos des granulés de chocolat qu'on met sur ma glace. Bien sûr, ça me donne de la joie d'avoir des granules de chocolat sur ma glace. Mais la joie d'une âme qui est convertie, amen. Il n'y a rien d'autre. Dans le ciel, les anges battent des ailes de joie. La Trinité se réjouit. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tous les saints de toutes les époques se réjouissent pour une personne qui dit oui à Christ. Une personne qui dit oui à Christ. Et vous savez ce que c'est ? Ne soyez pas intimidé, mais dites à Dieu, « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui gagne des âmes dans mon église locale. Je vous ferai pécheur d'hommes. » Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ça peut être quelqu'un à l'épicerie d'à côté. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément à l'évangélisation de l'église, mais Dieu, touche-moi pour que je puisse en toucher d'autres. Amenons-les l'un après l'autre. Si chacun dans cette salle amenait une personne l'année prochaine, on aurait besoin de construire une autre église pour l'année prochaine. On serait obligé de mettre une tente dehors, on serait 3000 l'an prochain. Chacun gagnait une âme, la joie de Jésus-Christ, la joie d'une conversion, la joie d'une âme. C'est ce que Paul dit. Père, on te remercie ce soir. Merci. Beaucoup de fois on dit non, mais Dieu dit vas-y. Sept fois en Philippiens 1, Paul utilise le mot évangile. 10 fois en 1 Corinthiens 9. C'était une église qui avait beaucoup de problèmes et vous savez quelle était la réponse ? L'évangile. Les mariages peuvent être guéris s'ils s'occupent de l'évangile, si la femme et l'homme s'occupent de l'évangile. Les amitiés, les relations et l'évangile. Je crois que je n'ai jamais eu un problème. Celui qui a un problème, c'est celui qui est perdu. Parce qu'il est sur le chemin d'une destinée séparée de Dieu. Moi, je n'ai pas de problème, c'est eux qui ont un problème. Et j'ai la réponse à leur problème. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est la joie du Seigneur. Le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On te remercie. Aide-nous à apporter la bonne nouvelle. Un message qui donne la joie à celui qui écoute. Le premier message que j'ai prêché en Afrique, Luc 4, verset 16. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher le message aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs et mettre en liberté ceux qui sont brisés. Il a fermé le livre et il a dit « Voici les mots de grâce qui sortaient de sa bouche ». Nous te remercions ce soir, Seigneur. Fais de nous des pécheurs d'hommes. Seigneur, on veut plus d'églises. 1000 églises. 1000 églises, bientôt. Père, 1000 églises. On en a 700 et quelques. 740, quelque chose comme ça. Mais Seigneur, on aimerait 1000 églises. De nouvelles personnes, de nouveaux convertis. J'ai une question pour toi, Seigneur. Est-ce que tu veux que les gens soient sauvés? Je crois que oui. Alors ma prière, Seigneur, c'est donne-moi quelqu'un. Sauve une âme. Sauve des gens à Baltimore. Les Moraves ont prié. Et pendant 150 ans, ils ont fait des prières pendant toute la nuit. Et ils évangélisaient. Ils parlaient aux gens. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous as donné par grâce. Tu nous as donné un ministère. Mais aucune de ces choses ne peut m'ébranler et je ne compte pas ma vie chère à moi-même jusqu'à ce que j'ai fini ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour témoigner de l'Évangile de la grâce. Bénis notre soirée ce soir au nom de Jésus. Amen. On se réjouit tellement dans nos missions. Les gens que Dieu a élevés, pour que ça se produise. La vie de Pasteur Chibeli et son message était vraiment bon, vraiment touchant pour nous. Dans quelques minutes, on va sortir et on fera la marche dehors. Je crois qu'il ne pleut plus. Est-ce qu'il pleut? C'est pas grave, on ira dehors quand même. Je crois que le Seigneur a baissé la température de 20 degrés Fahrenheit avec la pluie. On va être très bien dehors. Quelqu'un m'a demandé. Ils m'ont parlé de cette convention. Et j'ai dit, vous savez, c'est extraordinaire de travailler avec des gens aussi expérimentés et mûrs, de marcher dans l'esprit et de sentir la Bible dans notre esprit et dans nos cœurs. D'avoir un régime de ça, comme c'est notre façon de vivre. Ça demande de l'imagination, de comprendre ce qui est en train de se passer. Le diable veut vous voler votre imagination. Et mettre votre vie dans un programme rigide. Et juste pour faire quelques commentaires ce soir ici, en Exode 4, Moïse a répondu et a dit, « Mais ils ne vont pas me croire, ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Quand je pense au fait de partir dans un autre pays, ou d'être missionnaire dans notre propre pays. Isabella Pellegrino a fait un super travail. C'est la petite fille qui a parlé au début, c'est la petite fille de Pastor Love. Je crois. Quand elle a dit qu'on peut être un missionnaire là où on habite. Les gens vont me dire, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel ne t'est point apparu. Et on va quelque part. Et on dit, le Seigneur m'est apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, une verge. Et il dit, jette-la à terre. Ce que Dieu fait avec Moïse, c'est qu'il lui fait expérimenter personnellement un engagement. Dans nos églises, il y a de nouveaux croyants, ce sont des enfants dans le Seigneur. Et ils ne comprennent pas encore grand-chose, ils savent juste que leurs péchés sont pardonnés. Mais ils n'en savent encore pas beaucoup. Mais s'ils continuent à venir à l'Église, et c'est ça notre prière, c'est que dans nos églises, à Chicago, à la Nouvelle-Orléans, à Las Vegas, en Nouvelle-Angleterre, au Canada, que les gens continuent à venir. Et le Seigneur va leur parler et leur dire, « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Et ils vont répondre, « Un crayon, un ballon de basket, un chèque, des clés de voiture, un anneau de mariage, un enfant, qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Ma vie, mon travail, c'est ça ce que j'ai dans la main. Jette-le par terre. Vous voyez, Moïse a eu besoin d'expérimenter pour lui-même Dieu et trouver Dieu. Pourquoi est-ce que j'irai dans un autre pays si je n'ai pas trouvé Dieu? Et si je ne sais pas qui est Dieu? Qu'est-ce que j'ai à dire à quelqu'un? Si c'est juste de la pub, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Et c'est pour ça que ça grandit. Parce que Dieu est là. Et de manière individuelle, quand les gens entendent, qu'ils soient hongrois ou polonais ou russes, ou ouzbeks, ou indiens, ou népalais, ou birmans, ou thaïs, ou vietnamiens, c'est la même histoire. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Jette-le par terre. Je ne le pose pas par terre. Je ne veux pas le poser par terre. Je ne le mets pas par terre. Je reste debout. C'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est mon bâton, comme tout le monde. Mon bâton. Mon crayon, mon ordinateur, ma maison. C'est ce que tout le monde a. Mais on a entendu Pasteur Stevens prêcher au début de cette réunion. On l'a entendu crier et prêcher. Et on était là. Et on a entendu encore plus de cris de sa part. On a entendu à travers ça Dieu qui parlait à nos cœurs. Et c'est le même message. Ce que tu as dans ta main, est-ce que tu peux me faire confiance et le jeter par terre? Je te montrerai ce que c'est réellement sans moi. Il est dit, il la jeta à terre et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Cette chose qui est dans la main des gens leur attire des ennuis. Cette chose qui est dans leurs mains les rend orgueilleux. Cette chose qui est dans leurs mains rend leur vie compliquée. Parce qu'ils deviennent possessifs. Ils ont peur de perdre cette chose. Je ne veux pas la jeter par terre. Mais quand Moïse l'a fait, elle est devenue un serpent et il fuyait devant lui. Il y a des gens qui s'enfuient dans la vie. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient dans leur maison. Ils s'enfuient loin de leurs responsabilités. Ils s'enfuient loin de la vie. Ils ont peur de la vie. Ils ont peur de la vie. Ils ne sont pas capables de vivre leur vie parce qu'ils ont peur d'elle. Mais ça ne s'arrête pas là. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit sa main et le saisit. Et il devint une verge dans sa main. L'ordinateur devient un ordinateur différent. Mon mariage devient un mariage différent. Ma famille devient une famille différente. Mon travail devient un travail différent. Je l'ai donné à Dieu et Dieu me le rend. Et quand je le reçois en retour, j'ai un ministère. J'ai un ministère. Je ne m'enfuis plus devant quoi que ce soit. Je ne m'enfuis plus loin de Pharaon. Je ne m'enfuis plus d'Égypte. Je ne m'enfuis plus de ma culture. Je ne m'enfuis plus loin des gens. Je ne m'enfuis plus loin de moi-même. Parce qu'on l'a trouvé, lui. Et maintenant, partout où on va, on a un ministère. Partout où Dieu nous place, on a une autorité. On a un ministère. Et c'est extraordinaire. Et maintenant, le Seigneur peut dire, Moïse a sa verge dans sa main et l'Éternel peut dire, « Tu comprends maintenant? Je t'envoie. Tu comprends ?» Quand ils vont te dire, « L'Éternel ne t'est pas apparu », tu sauras, toi, dans ton cœur qu'il t'est apparu. Tu le sauras dans ton cœur. Tu sauras que tu as un ministère. Tu as un ministère. Le but de toutes nos églises dans le monde entier, c'est que dans nos petites vies de tous les jours, les gens puissent trouver l'autorité de Dieu dans leur cœur. Qu'ils disent non au péché, qu'ils disent oui à Dieu. Dieu va dire, je veux que tu ailles dans le prochain village et que tu sois un ami pour eux. Que tu parles au gars qui vend ses tomates. Que tu y ailles tous les jours. Que tu lui achètes une tomate chaque jour. Et quand tu iras là, je t'aurai envoyé. Je t'ai envoyé. Tu as un ministère. Et après un ou deux mois à acheter des tomates, tu pourras l'inviter dans ta maison. où tu pourras t'asseoir et parler avec lui. Et je serai avec ta bouche. Je serai là en esprit, je t'utiliserai. Et tu pourras semer une semence. Et un jour, qui sait comment ça marche? Mais c'est ce qui arrive. Un jour, il a 65 amis ou 100 proches. Et cet homme a une influence dans tout le village. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu nous a envoyés, Dieu vous a envoyés. Il est avec vous. Mais il faut que vous lâchiez ce que vous avez dans la main et que vous entendiez de Dieu. Et une fois que vous l'aurez jeté par terre, vous direz, « Seigneur, c'est ton problème. Je te fais confiance. » Ça devient un serpent. Et le Seigneur dit, « Ne t'enfuis pas loin de lui. Vas-y, prends-le par la queue. Je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser. » Et beaucoup d'entre nous peuvent dire, « Peut-être que j'irai jamais sur le champ missionnaire, mais ma famille a besoin de moi. » Ils n'ont pas besoin que je m'enfuie, ma famille a besoin de moi pour que je prenne les choses par la queue. Ils ont besoin que je me tienne à la brèche, que j'aime, que je pardonne. Mon pasteur a besoin de moi. Il a besoin que je sois là pour l'aider, pour prendre le serpent par la queue et pour faire quelque chose. Que j'ai un ministère dans le monde, dans ma ville. Et peut-être aussi dans le monde. Prions les uns pour les autres cette année comme jamais auparavant. Aimons-nous les uns les autres comme jamais auparavant. Je disais un jour aux Indiens, quand on était en Inde, j'ai demandé à tous les pasteurs indiens de venir sur l'estrade. Il y en avait peut-être 100. Et je suis allée dans l'allée en bas et je leur ai dit, « Je sais les gars que vous m'aimez, mais est-ce que vous vous aimez les uns les autres ?» Je veux vous voir pendant 10 minutes sur l'estrade, devant toute l'église. Allez vous voir les uns les autres. Apprenez les noms les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres et dites, je vais prier pour toi cette année. Est-ce qu'on s'aime les uns les autres à Toronto? Est-ce qu'on s'aime les uns les autres à Budapest? Est-ce qu'on s'aime les uns les autres à Moscou et en Finlande et dans le monde entier? Ça, c'est un défi. C'est pas les choses naturelles, vous savez, ce qu'il y a dans votre main. J'ai le ministère dans ma main. Je sais comment le faire. Non, tu sais pas comment le faire. Lâche-le. Tu sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis pas capable de le faire. Mais laissez-le. Et Dieu va vous dire, reprends-le. Et quand tu le reprendras, tu prêcheras différemment, tu aimeras différemment, tu serviras différemment, tu pardonneras différemment, tu iras différemment. Tu auras un ministère de la part de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Amen. C'est super. Je serai un père différent. Je serai un mari différent. Je serai un membre du corps différent. Parce que Dieu est avec nous dans ce qu'on fait. Pour terminer ici, je pensais que ça serait chouette. Je voulais pas que ce soit quelque chose de dramatique, mais j'aimerais juste donner une opportunité à tout le monde ici, parce que peut-être Dieu est en train de parler à votre cœur. On a reçu un très bon message de Pasteur Chibeli. C'est un honneur d'être avec cette grande équipe. Vous savez, il y a des gens qui ont été ici, qui ont travaillé dur, des gens qui aiment, qui donnent. On a vu les t-shirts « Promesses de foi » sur que portaient les enfants sur l'estrade. Je veux promettre de donner $30 par mois ou $50 par mois ou quoi que ce soit que je veux donner en plus de ma dîme pour la mission. Vous pouvez faire ça en ligne et donner tous les mois par la foi. Et Dieu vous bénira dans ce don missionnaire. On a des dizaines de milliers de dollars de besoins parce qu'on soutient beaucoup de gens dans beaucoup de pays du tiers-monde et beaucoup d'autres endroits. Donc l'argent est utilisé, vous pouvez dire pour qui c'est ou le donner de manière générale. Et vous pouvez faire ça en tout cas. Juste vous engager par la foi, faire une promesse. Dans votre église locale, dans votre famille, pourquoi vous n'avez pas une carte du monde dans votre maison et amenez vos enfants et parlez de la mission. Lisez des lettres de nouvelles pour aider vos enfants à comprendre ce que c'est que la mission et qu'on peut faire ça, qu'on en fait partie. Atteignez le monde avec l'Évangile, comme on a entendu. Et pour terminer, peut-être vous dites, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles. Pasteur, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis arrivé ici un peu par hasard et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici. Alors je veux vous dire, soyez patient. Faites confiance à Dieu. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est à propos de Jésus-Christ qui est réel pour vous. Christ qui vous parle à vous. Écoutez, les gens font des sports extrêmes parce qu'ils s'ennuient. Ils sautent de falaises, ils volent dans des avions, ils vont nager avec les requins, ils font plein de choses folles parce qu'ils recherchent le frisson dans la vie. Mais j'ai jamais trouvé rien qui donne plus le frisson que de prendre ce qui m'est précieux dans ma main et de le lâcher. Et ensuite, Jésus dit, « Oh, c'est un serpent !» Mais il dit, « Vas-y, prends-le par la queue. » Et quand tu l'auras attrapé par la queue, quand vous faites ça, c'est vraiment enthousiasmant. C'est vraiment enthousiasmant quand vous pouvez vous réveiller et vous dire, « Ma vie a du sens. » C'est enthousiasmant quand vous dites, « Tous les jours, ma vie a du sens. » C'est beau. Donc vous allez à l'Institut biblique. Venez ici à Baltimore si Dieu vous parle. Faites vos bagages, venez. Vous savez qu'il y a des gens qui déménagent d'un pays à l'autre pour un travail. Pourquoi ne pas le faire pour une église? Les gens sont capables de déménager pour une petite amie ou pour une relation. Mais est-ce que vous êtes capable de déménager pour aller à l'Institut biblique, pour être équipé pour le ministère et pour être envoyé, pour être un pasteur? On a besoin de pasteurs. Il y a des églises qui ferment par milliers parce qu'il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a même plus de pasteurs qui valent le sel qui est sur leur nourriture. Ils ne valent même pas le sel qui est sur leur nourriture. Mais les pasteurs qui jettent ce qu'ils ont dans la main et qui le reprennent sont extrêmement utiles dans le royaume de Dieu. Et Jésus se réjouit de leur vie. Il nous utilise. Donc avant de sortir pour regarder la marche, je veux donner à chacun ici l'opportunité de s'approcher et de dire, je m'engage à rien de précis, mais je dis dans mon cœur, je veux plus, ou je suis disponible. Peut-être je pourrais être missionnaire, ou peut-être je peux aller à l'Institut biblique, quoi que ce soit. Et peut-être on peut avoir de la musique, quelqu'un peut jouer du piano, mais juste pendant quelques minutes. Je me dis que des fois, quand on entend quelque chose, ça touche votre cœur, et vous voulez juste faire quelque chose en réponse. C'est entre vous et Dieu. On ne va pas noter vos noms. C'est pas ça la question. C'est juste entre vous et Dieu. Si vous voulez, venez approchez-vous devant. Pendant quelques minutes, dites dans votre cœur, « Seigneur, je ne sais pas encore ce que ça signifie exactement, mais je suis là. Me voici. Me voici, je suis disponible pour toi. » Amen.